Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous allons reparler du secteur financier en Afrique. Les banques et compagnies d'assurance marocaines font partie des plus importantes du continent. C'est ce que révèle un nouveau classement sur les champions africains de la finance. Nous en parlons longuement au cours de cette émission avec notre invité. Il s'agit de Julien Wagner, l'un des auteurs de ce classement. Il est également journaliste au magazine Jeune Afrique. Quelle est la présence des femmes dans le monde des affaires en Afrique du Nord et comment évoluent les entreprises gérées par la junte féminine dans la région? Ces questions ont été épluchées dans un rapport produit par le Bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Oxford Economics Africa. Vous aurez les détails dans votre rubrique Zoom Express. Tels sont les principaux sujets de coémergence. Tout de suite, le développement.
Zoom Express.
Je vous le disais dans les titres, un rapport produit par le Bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Oxford Economics Africa s'est intéressé à la présence des femmes dans le monde des affaires en Afrique du Nord et surtout comment évoluent les entreprises gérées par la junte féminine dans la région. Nous en parlons avec François Conradi, l'économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Bonjour à vous François Conradi et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Omar.
Tout d'abord, quelles sont les principales conclusions de ce rapport?
Alors, dans ce rapport, nous nous sommes penchés sur des chiffres de la Banque mondiale qui nous disent quelque chose sur la différence entre les petites et moyennes entreprises gérées par les femmes qui ont une participation capitalistique et celles où ce n'est pas le cas. Donc, cela permet de dire que lorsque une femme est présente dans le capital d'une PME, cette entreprise emploie d'une plus de personnes que lorsque ce n'est pas le cas, et de deux, emploie plus de femmes. Donc, sur la base de ça, et en combinant cela avec des chiffres de chômage dans la région de l'Afrique du Nord, chômage qui est le chômage est élevé et aussi la participation dans le monde du travail est bas. Cela permet de conclure que ça doit être une priorité pour les dirigeants des gouvernements en Afrique du Nord d'encourager et de trouver des moyens de pousser des femmes à devenir plus représentées, mieux représentées dans les PME.
Donc, encourager la présence féminine au niveau donc, de la direction ou du capital de ces PME. Alors, l'autre question, c'est comment évoluent ces PME gérées par les femmes? Sont-elles mieux gérées? Sont-elles plus dynamiques, plus compétitives? Qu'avez-vous observé, François Conradi?
Alors, les données sont mitigées. Donc, en général, si on prend l'univers de toutes les PME au monde, il en ressort qu'en général, les gens qui évoluent dedans, les femmes sont moins bonnes les PME gérées par les femmes ont plus de difficultés à faire évoluer les ventes rapidement que les PME dirigées par les hommes. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les régions. Donc, par exemple, il y a eu une étude au Cameroun et une autre de l'Afrique du Sud qui a montré le contraire. Mais c'est en partie pour ça que nous disons qu'il faut aussi penser au différentiel de chômage entre les hommes et les femmes, qui est particulièrement prononcé en Afrique du Nord, plus que dans les autres régions du monde, parce que c'est en travaillant pour quelqu'un d'autre que l'on apprend comment fonctionne une affaire, comment vendre, comment faire ses comptes, comment parler à des fournisseurs, etc. Ce qui veut dire qu'un taux élevé de chômage pour les femmes implique aussi que les femmes de ce pays en général n'apprennent pas les compétences nécessaires à fonder leur propre PME. Donc, ce sont deux problèmes à regarder en même temps.
Mmh. Ce sont donc des problèmes à gérer. Alors, quelles sont les recommandations de ce rapport qui, je le rappelle, donc, est établi en partenariat avec le bureau donc, de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique du Nord? Quelles en sont les recommandations principales, François Conradi?
Donc, en parlant des PME de manière générale, sans parler de genre, nous recommandons que les gouvernements trouvent des moyens pour faciliter les procédures administratives pour les PME, donc obtenir une licence et s'enregistrer pour payer les impôts, etc. Après, pour ce qui est du genre, il faut que des programmes, parce que dans tous les gouvernements de la région ont quelque part dans les programmes, ça parle de genre, mais ce n'est pas jumelé avec ce qui se passe sur la gestion des PME. Et c'est là vraiment que nous voulons mettre l'emphase dessus, c'est dans les PME qu'il faut encourager la participation féminine. Donc, nous voulons que les politiques PME et les politiques de genre soient combinées de manière plus efficace. Et aussi dans le privé, nous encourageons les banques et les sociétés de financement, d'investissement, à entreprendre ce qu'on appelle en anglais un « gender lens approach ». Donc, c'est de regarder les investissements à travers la lentille du genre et de prioriser des investissements qui pourraient encourager ou promouvoir la participation féminine dans les PME.
Prioriser donc les investissements qui pourraient encourager la participation féminine dans les PME. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa, qui, en partenariat avec le bureau de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique du Nord, a préparé et vient de sortir un rapport sur la présence donc féminine dans les entreprises, notamment les PME, et l'approche genre dans les entreprises. Merci d'avoir accepté notre invitation, François.
Merci, Omar. À bientôt.
À très bientôt.
Coémergence, l'invité.
Il s'agit de Julien Wagner. Il est journaliste chez Jeune Afrique. Avec lui, nous parlons de ce classement sur les champions de la finance africaine. Les banques et compagnies d'assurance marocaines font partie des plus importantes du continent. C'est ce que révèle donc ce nouveau classement. Et nous avons le plaisir d'en parler avec Julien Wagner. Bonjour à vous, Julien Wagner.
Bonjour Omar.
Alors, c'est un nouveau classement donc qui est paru dans Jeune Afrique. Quels sont les principaux enseignements de ce classement sur les champions de la finance africaine? Et quand on dit champion de la finance, c'est aussi bien dans le secteur des banques que des assurances.
Alors, d'abord, il y a plusieurs enseignements. Et les premiers, c'est que d'abord, nous, on a décidé de changer notre méthodologie. Jusqu'à présent, en particulier pour les banques, on mesurait essentiellement la taille des banques et on faisait un classement qui mesurait quelles étaient les plus grandes banques d'Afrique. Et à partir de cette année, on a décidé d'avoir un classement plus fin. Et au lieu d'évaluer leur taille, qui changeait finalement assez peu d'une année sur l'autre, on a décidé d'évaluer leur performance. En intégrant un certain nombre de critères, la rentabilité, la solvabilité, la qualité des actifs, la liquidité et aussi toujours bien sûr la taille. Et du coup, ça nous a donné un classement complètement différent, enfin pas complètement différent, mais assez différent de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est d'abord parce que le secteur bancaire africain est de plus en plus sophistiqué et s'attacher seulement au total du bilan n'était plus suffisant pour les analyser. Et donc, cela a donné un classement assez différent. Auparavant, on avait donc classé les tailles et on avait les banques sud-africaines qui trustaient toutes les premières places, que ce soit Standard Bank, Absa Bank ou First Rand, vous les connaissez. Et désormais, en évaluant la performance avant tout, alors certes, on a en premier une banque sud-africaine, mais on voit d'autres tendances se dégager, et notamment on voit apparaître cinq banques nigérianes dans le top 10, et c'est une surprise de voir que les banques nigérianes sont parmi les plus performantes du continent, et je dirais que c'est vraiment l'enseignement principal avec des banques nigérianes qui sont très hautes, des banques marocaines qui, on en parlera plus tard, qui sont dans le milieu du classement à part Atijari qui est dans le top 10, et puis des banques ouest-africaines et centrafricaines qui ferment la marche.
En tout cas, c'est intéressant. On va y revenir hein, étape par étape ou point par point concernant ce classement. Il est vrai que ce qui intéresse ici au Maroc, c'est effectivement les banques marocaines. Parlez-nous des positions de ces banques marocaines en termes de rentabilité, hein, si j'ose dire, parce que, vous l'avez dit, ce classement prend en compte aussi cet aspect-là de performance.
Tout à fait. Donc, quand on parle de performance, on parle à la fois de rentabilité, mais aussi de la solvabilité, de la qualité des actifs, de la liquidité et de la taille. Alors, auparavant, on avait Atijari, qui était la première banque marocaine en taille, et avec ce classement des performances, c'est encore elle qui arrive devant. Juste pour bien resituer, on a séparé les groupes consolidés des entités nationales, et donc on a fait un classement des groupes panafricains, on va dire, dans lequel il y a 27 classés. Et parmi ces 27 classés, Atijari arrive 9e, avec des performances vraiment très bonnes. D'abord, elle a un portefeuille client très important, plus de 10 millions de clients. Et c'est une banque qui se caractérise par, notamment si on la compare à BCP ou à BMCE, BCP est 19e et BMCE 20e, c'est que Atijari arrive à avoir des bonnes performances sur la rentabilité, tout en ayant une qualité des actifs qui reste très bonne. En dessous, elle a un taux de créance douteuse, par exemple, qui est très bas, à moins de 4%, alors que des banques comme BMCE ou BCP, qui ont certes une rentabilité satisfaisante, eux ont des portefeuilles d'actifs qui sont plus risqués, avec des taux de créance douteuse qui sont plutôt autour de 10%.
Alors, vous avez parlé effectivement de ce classement des banques marocaines. Alors, on retiendra que la première banque marocaine sur le continent, c'est Atijari, qui est située donc à la 9e place. On retrouve la Banque Centrale Populaire avec donc à la 19e place et BMCE, Bank of Africa, à la 20e place. Et vous parlez de ces risques. Il semble que votre étude indique que les filiales des banques marocaines sur le continent ont bien suggéré ces facteurs de risque.
Absolument. Alors, le contexte n'était pas très favorable, hein, évidemment. On va peut-être en parler plus tard pour le secteur financier en général. Mais avec les différentes crises qui ont eu lieu, évidemment, les portefeuilles de crédit se sont détériorés. Et on a vu, comme les banques marocaines sont exposées en grande majorité au Maroc, hein, elles ont une tendance à avoir un peu tous les œufs dans le même panier, en tout cas, avec une exposition à 80-85% sur les actifs marocains. Mais, et vous le savez, et vos auditeurs le savent, depuis 10-15 ans, il y a eu une extraversion, notamment vers l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, 15-20% de leur exposition sont en Afrique subsaharienne. Et en fait, elles ont prouvé, malgré cette, à la fois cette exposition très forte au Maroc et une exposition en Afrique subsaharienne qui est forcément un peu plus risquée que sur d'autres marchés, elles ont prouvé qu'elles savaient gérer le risque et ont des risques tout à fait acceptables par rapport à la fois au contexte et par rapport à leurs actifs sur le continent.
Alors, il y a les banques, mais aussi il y a les sociétés d'assurance. Sur ce point, quel est le classement des principales compagnies marocaines présentes sur le continent?
Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que dans les classements des top 100 du continent, on retrouve 14 sociétés d'assurance marocaines, et c'est le deuxième meilleur total après l'Afrique du Sud. Donc on voit que c'est un marché qui est beaucoup plus mature que les autres marchés en Afrique. Évidemment, encore une fois, sur ce marché, encore plus que sur les banques, peut-être, l'Afrique du Sud est un marché bien en avance sur tous les autres. Et sur les 8 premiers du classement, on retrouve 8 acteurs sud-africains. Mais le premier non sud-africain est un acteur marocain et c'est Wafa Assurance avec presque 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais on retrouve aussi beaucoup d'acteurs dans le top 20 marocains. Royal Marocaine d'Assurance est 13e. On retrouve aussi Mutuelle Atamine Chabi, AXA Assurance Maroc, Sanlam Maroc évidemment. Et au total, on a quand même une concentration assez importante avec, on le voit, un marché qui se porte assez bien, même si le marché des assurances en général, et c'est vrai pour les acteurs marocains comme pour les acteurs de tout le continent, est dans une passe qui est assez difficile. On a eu évidemment la crise du Covid, et les conséquences de la crise du Covid se font sentir en fait à retardement dans le marché de l'assurance, notamment parce que c'est un secteur où les contrats sont plutôt des contrats de 2, 3, 4 ans et ils arrivent à terme, ceux qui ont été signés il y a 2, 3, 4 ans arrivent à terme, c'est ces contrats qui ne sont pas renouvelés ou qui sont en cours de renégociation. Du coup, ça affecte pas mal les résultats des acteurs de l'assurance et c'est vrai aussi pour les acteurs marocains. Il faut ajouter à ça l'inflation évidemment qui impacte les consommateurs et leur capacité à prendre des primes d'assurance, évidemment, à prendre des contrats d'assurance. Et puis enfin, on observe une troisième tendance assez forte, et ça c'est aussi pour toute l'Afrique, c'est que les grands groupes industriels, les grandes compagnies africaines, pour garder les primes d'assurance pour eux, on commence à créer des entités ad hoc pour s'assurer eux-mêmes et garder leurs primes pour eux et non plus s'assurer chez des spécialistes de l'assurance. Et ça, c'est une tendance aussi qu'on devrait voir se poursuivre. Donc, marché en lui-même de l'assurance se porte pas extrêmement bien et les tendances que je viens de décrire devraient se poursuivre d'ailleurs dans les années qui viennent.
En tout cas, c'est des tendances importantes. Alors, ce sera ma dernière question, bien évidemment. Quand on parle des acteurs marocains sur le continent, dans la banque et les assurances, il y a ce phénomène, c'est qu'on parle plutôt de banque-assurance parce que Attijari Wafa Bank a son aile d'assurance qui est Wafa Assurance, d'autres groupes marocains aussi. Comment le fait d'aller en duo ou bien en tout cas en tandem banque-assurance favorise les entreprises ou bien les compagnies marocaines?
Alors, le phénomène de la banque-assurance, c'est un phénomène qui permet surtout que les acteurs bancaires ajoutent une corde à leur arc et permet aussi à ce que finalement on touche avec l'assurance un public plus large parce que le problème de l'assurance en Afrique, le taux de couverture assurantielle dans les pays africains est extrêmement faible et par le biais de la banque, et des clients bancaires, on pense pouvoir leur vendre des produits qu'un assureur simple n'arriverait pas à leur vendre. En faisant ce couple-là, on fait le pari de pouvoir développer ce marché assurantiel africain. Alors, je n'ai pas de chiffres qui puissent corroborer ce que je veux dire, mais je ne crois pas pour l'instant que le pari soit une grande réussite. Mais évidemment, tous les développements qui vont vers l'accès à de nouveaux clients, l'inclusion financière en général en Afrique, que ce soit via l'assurance ou la banque, sont des objectifs essentiels. Ils passent en majorité aujourd'hui par la digitalisation, par les fintechs et par les partenariats entre banques, assurances, fintechs, mobile money. Ce sont ces différents développements qui pourront amener les acteurs à rechercher de nouveaux clients dans la banque et dans l'assurance.
Merci à vous, Julien Wagner. Je rappelle que vous êtes journaliste à Jeune Afrique. Vous nous parlez à l'occasion de la publication de ce classement donc sur les champions de la finance africaine dans les banques et dans les assurances. Merci à vous pour toutes vos explications et plaisir de vous retrouver prochainement, Julien.
Merci beaucoup. À bientôt.
À très bientôt.
Destination Éco.
Nous retournons à Addis Abeba pour vous présenter l'économie éthiopienne. Elle a été très dynamique durant ces dernières décennies. Je vous propose d'écouter l'analyse de Mustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique.
Avec une population de près de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie est la seconde nation la plus peuplée d'Afrique, après le Nigeria. Sa capitale, qui est très connue maintenant au niveau international, pour ne plus la nommer Addis-Abeba, cette capitale, elle a une particularité. En fait, elle est située à 2400 mètres d'altitude. C'est la première capitale la plus élevée d'Afrique et au niveau mondial, c'est la quatrième. Au niveau économique, l'Éthiopie se distingue vraiment par un essor qui est, je dirais, continu depuis pratiquement une vingtaine d'années. En effet, depuis les années 2000, la croissance de l'Éthiopie, et plus précisément la croissance du PIB de l'Éthiopie, est l'une des plus importantes au monde. Elle avoisine les 10% par an, donc ce qui est assez remarquable. Cette croissance, elle a vraiment permis une sortie, je dirais, de l'extrême pauvreté que connaissait le pays pour une grande partie ou une bonne partie de la population. L'Éthiopie possède une économie qui est essentiellement agricole. L'agriculture représente plus de la moitié de son PIB. D'ailleurs, là, il y a vraiment des opportunités très importantes à prendre pour les entreprises marocaines dans ce domaine. D'ailleurs, pour ce qui est des relations entre l'Éthiopie et le Royaume du Maroc, on peut dire que les deux pays sont devenus, grâce à une volonté et également à des efforts qui sont mutuels, ces deux pays sont devenus vraiment deux partenaires stratégiques, non seulement au niveau continental, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, mais également au niveau international. D'ailleurs, il y a encore un énorme potentiel inexploité du commerce bilatéral, ainsi que des investissements et de la coopération économique entre les deux pays, que sont le Royaume du Maroc et l'Éthiopie.
Le grand projet de production d'engrais avec l'OCP constitue aujourd'hui une base solide pour dynamiser les relations économiques entre les deux pays. Tout ceci grâce à l'impulsion donnée ces dernières années par le roi Mohamed VI. Je vous propose d'écouter à nouveau Mustapha El Bouri qui nous parle du potentiel de coopération économique entre le Maroc et l'Éthiopie.
Suite à une visite très importante de Sa Majesté Mohamed VI en 2016 à Addis-Abeba, plusieurs grands projets en fait d'envergure ont été lancés à ce moment-là dans différents domaines. Le plus important d'entre eux concerne le groupe marocain OCP. D'ailleurs, ce projet vraiment, il a donné naissance à une très belle expérience marocaine d'investissement. Cet investissement a consisté par la construction d'une usine, d'une très très grande usine de fertilisants à Dire Dawa, en Éthiopie. C'est un projet qui a coûté près de 2,5 milliards de dollars pour la première phase et atteindra au terme de sa deuxième phase près de 4 milliards ou 4 milliards et demi de dollars. Donc c'est vraiment un investissement de très grande envergure. D'ailleurs, cet investissement, je pense très sincèrement qu'il contribuera de manière considérable à la transformation agricole de l'Éthiopie. J'ajouterai également que cet événement, c'est vraiment en fait une véritable illustration, je dirais, de cette coopération qui est à la fois florissante et continue entre le Royaume du Maroc et l'Éthiopie. Vraiment, le Maroc et l'Éthiopie sont résolument décidés à aller davantage de l'avant, ceci en s'engageant à une meilleure coopération dans différents secteurs d'activité. Ça aura pour conséquence, je pense, de hisser de façon assez élevée les relations économiques au niveau d'un partenariat qui sera stratégique. Je terminerai en disant que vraiment l'intensification des relations économiques entre le Royaume du Maroc et l'Éthiopie est en ligne de mire.
Merci à vous, Mustapha El Bouri. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé dans les investissements et les implantations sur le continent. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur les plateformes Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.